Kinésique Radio, interview BO par Benoît Basirico.
Bienvenue à l'écoute des podcasts de Kinésique Radio, à l'écoute sur kinésique.fr et toutes les plateformes de podcasts. N'hésitez pas à laisser vos notes et commentaires et à nous écrire via Kinésique sur Facebook ou Twitter.
Je vais te la dresser en moins de deux. Non, je suis très bonne pour communiquer avec les animaux.
Interview BO avec le compositeur Pablo Pico qui nous parle de l'extraordinaire voyage de Marona, film d'animation, et qui est un coup de cœur de Kinésique, coup de cœur cinématographique et musical. Pablo, bonjour.
Bonjour.
Alors, les lecteurs de Kinésique vous connaissent déjà puisque vous avez signé la musique de Adama de Simon Roubi en 2015. Nous avions déjà rencontré. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'interview podcast et écrite sur Kinésique. Adama, donc, c'était cet enfant de 12 ans qui vivait dans un village isolé d'Afrique de l'Ouest en Première Guerre mondiale. Un sujet donc très adulte et très grave. Vous aviez aussi composé la musique d'Un homme est mort en 2018, toujours dans l'animation, avec un registre toujours très adulte, puisqu'il s'était un homme qui était mort pendant une manifestation de revendication sociale. Premier film d'Olivier Cossu. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ce nouveau film, L'extraordinaire voyage de Marona, vous êtes adapté, on va dire, à un public d'enfants?
C'est-à-dire que j'aborde rarement les projets en me posant la question de la cible du public, en me disant tiens, c'est un film pour enfants, donc il faut que je compose une musique pour enfants, soi-disant accessible pour les enfants, gentil, coloré, mignonne, ou c'est un film pour adultes, attention, il faut que je compose quelque chose d'un peu dur. J'essaie toujours d'être assez libre dans mon approche, et enfin, en tout cas le plus libre possible, et de me libérer un peu des carcans du commerce et de la distribution des films. Quand j'ai abordé la composition de Marona, la réalisatrice m'a présenté le projet comme un projet de long métrage pour la famille, mais elle mais connaissant déjà son travail, ses précédents films, et au fil de la conversation, je me suis aperçu que c'était un projet bien plus complexe et bien plus complet et ambitieux artistiquement qu'un simple film pour la famille, commercialement parlant en tout cas.
Tout à fait. Donc, en tout cas, vous avez bien raison d'avoir cette approche, et ça se ressent, puisque votre partition pour L'extraordinaire voyage de Marona témoigne d'une recherche instrumentale et de thèmes aussi forte que l'étaient les deux titres que j'ai cités. Donc il y a une continuité, on va dire, malgré la cible plus accessible, on va dire, pour les enfants pour ce film-là. C'est une équipe européenne, hein, la réalisatrice Anca Damian est roumaine, le créateur des personnages Brecht Evans est belge, et les décoratrices sont norvégienne et italienne. Alors donc vous êtes le français de l'équipe. Est-ce que vous pouvez penser qu'il y a vraiment quelque chose d'européen, en tout cas une géographie qui n'est pas ciblée dans ce film?
Oui, c'est un film qui est... enfin, en tout cas, moi, dans ma composition, j'ai pas du tout abordé le film en me disant, tiens, il faut que je compose à la manière roumaine ou ce genre de choses, ou en pensant à un quelconque folklore. Effectivement, c'est une équipe hyper cosmopolite. Je pense que c'est un film très très moderne dans son approche, à la fois dans l'artistique et même dans la production. Disons qu'on se pose des questions par rapport à la manière dont on aborde la musique. On se dit tiens, on va pas composer pour un public ciblé non plus. Encore une fois, on essaie d'être le plus libre possible. L'idée, c'est vraiment d'être toujours dans une forme de liberté, d'invention surtout, parce que on travaille avec des directeurs artistiques comme Brecht Evans. Enfin voilà, quelque part, c'est hyper inspirant. C'est un film qui est tellement libre dans son graphisme qu'il est, à la fois, il est partout et nulle part. Enfin, il est situé partout et nulle part, même la temporalité. Enfin, ça pourrait être un film qui se situe il y a un siècle ou maintenant, en fait. Et à la fois des smartphones et puis en même temps des costumes de pièces un peu qui rappellent des années 30. Enfin, on ne sait pas trop où on est non plus, donc c'était important d'être aussi libre dans la musique.
Quelle a été la première rencontre avec la réalisatrice? Comment elle vous a présenté ce projet?
Première rencontre, déjà j'ai rencontré Anca via un ami commun qui était à l'époque mon agent, qui était Paul Lavergne. Et donc la rencontre s'est faite par son intermédiaire. Elle avait ce projet donc de long métrage d'animation. Elle cherchait un compositeur et on a été présenté donc comme ça. La rencontre est hyper importante, évidemment, la rencontre humaine. Mais connaissant déjà un petit peu son travail et surtout la manière dont elle m'a parlé de son projet, ça m'a tout de suite beaucoup plu. Et surtout elle m'a dit d'emblée qu'elle voulait travailler un peu différemment. C'est-à-dire qu'elle voulait qu'on travaille sur des thèmes avant de produire le film, avant de fabriquer le film, c'est-à-dire de composer les musiques presque dans la foulée du scénario, quoi, entre entre le scénario et la fabrication du film, et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'était une méthode assez inhabituelle pour moi en fait.
Musique de l'extraordinaire voyage de Marona, musique de Pablo Pico, avec nous pour nous en parler. Alors vous disiez que vous étiez intervenu en amont du tournage, vous donniez des thèmes à la réalisatrice Anka Damian. Il y a cette voix off également dans la partition dans le film. Est-ce que donc du coup vous êtes intervenu en amont, vous n'aviez pas les éléments sonores du film dont cette voix off ?
Non, j'avais juste le scénario, j'avais très peu d'indications en fait. Seulement Anka avait une idée assez précise du nombre de thèmes qu'elle voulait. Elle voulait que ce thème soit rattaché au personnage, quelque chose d'assez qui peut paraître très classique. En fin de compte, ça m'a permis de structurer la musique de manière assez originale. Et en fait, comme l'itinéraire de l'héroïne du film, qui est cette petite chienne qui s'appelle Marona, va croiser différents personnages, en fait ça structure aussi le film, ces thèmes structurent le film.
Et donc vous êtes parti au point, le point de départ c'est la discussion avec la réalisatrice et la réflexion finalement sur ces thèmes associés aux personnages.
Exactement, donc c'est une description assez, elle avait une idée très précise de la psychologie de ces personnages et elle me les a décrits tout simplement avec ces mots, enfin voilà, et donc on est parti de là en fait, j'avais presque pas de données visuelles en fait, et c'était très conceptuel en fait comme travail, ça c'était assez, enfin hyper intéressant.
Et donc du coup, d'où vient l'aspiration ? Alors on part de rien, on part juste de la discussion. Comment créer ces thèmes ?
Bah déjà, il faut avoir quand même une foi dans le projet, un amour du projet quand même, du film. On est quand même porté aussi par la rencontre, notamment le charisme de la réalisatrice en l'occurrence, qui est quelqu'un quand même qui a une personnalité très forte. Et donc c'est la manière dont elle va nous parler des personnages, rien que dans le ton de sa voix, dans ses intonations, dans le choix des mots. Ben voilà, ça puise comme ça des renseignements, des informations qui vont nourrir l'inspiration. Mais après, une des données fondamentales aussi, c'est que très tôt, on s'est mis d'accord sur un type d'orchestration. En tout cas, Anka ne voulait pas entendre parler d'orchestre, elle ne voulait pas de musique orchestrale. C'était, je pense, assez justifié, en tout cas pour ce film, parce que c'est un film plutôt intime. Voilà, il ne fallait pas que l'émotion soit trop... que le son de la musique soit disproportionné par rapport à l'émotion de cette petite scène. Il fallait parvenir à l'émotion avec des moyens, on va dire, restreints, en fait, des moyens limités. Et donc, du coup, on s'est mis d'accord sur une orchestration limitée, quelque chose de plutôt intime, qui relève plus de la musique de chambre que de la musique orchestrale.
Alors, il y a une unité avec l'écriture de ces thèmes, il y a une unité sur l'intimisme, mais il y a également quelque chose de très hétéroclite. Hein. Il y a un passage, même électro, dans le film, il y a des passages de valse. Cet éclectisme fait aussi partie de la réflexion initiale ?
Ben, pas vraiment, en fait. C'est-à-dire, ça, c'est venu ensuite, dans un deuxième temps. C'est-à-dire que d'abord, j'ai composé les thèmes, donc une certaine unité, en tout cas, la même couleur orchestrale, instrumentale. Ensuite, quand j'ai commencé à être en présence du film, on a vu qu'il y avait des séquences un peu particulières. Et effectivement, il y a une séquence d'un chantier, en fait, une construction d'un bâtiment avec des ouvriers qui évoluent comme ça sur un quadrillage, quelque chose qui ressemble un peu à un Tetris. Et là, effectivement, Anka voulait souhaiter une musique de Game Boy, entre guillemets. Il y avait quand même des digressions comme ça, des moyens un peu de s'échapper, de s'échapper encore du réel, même d'avoir des petites échappées instrumentales, musicales comme ça, des moments assez drôles quand on compose une musique, c'est comme des parenthèses un peu.
Donc vous avez été finalement dans la situation vraiment idéale pour un compositeur d'intervenir à tous les niveaux avec une réflexion en amont, l'écriture des thèmes, et ensuite vous avez recomposé d'autres choses au moment où les images vous parvenaient.
Exactement, ouais. C'est vraiment, on a le sentiment vraiment d'être partie intégrante du processus de création du film, quoi. Vraiment. Pour le coup, le mot d'auteur prend tout son sens. Enfin, on est vraiment intégré du scénario jusqu'à la finalisation, jusqu'au mixage à 200%. Quoi.
Alors, dans le travail thématique que l'on a évoqué, il y a donc ce thème que l'on peut entendre qui revient à plusieurs reprises. Thank you. venons d'entendre deux versions d'un thème de l'extraordinaire voyage de Marona, musique donc de Pablo Pico. Alors Pablo, donc l'écriture de ce thème, à quoi correspond ce thème dans le film ?
C'est le thème de Manolé. C'est le premier maître que va rencontrer, le premier être humain en fait auquel va s'attacher la chienne. Et c'est un artiste de cirque, c'est un acrobate. Et Yanka a beaucoup insisté sur la dimension, on va dire, libre de ce personnage, sur un peu foutraque, très libre. Et puis c'est le premier, entre guillemets, c'est le premier amour de la chienne en fait. C'est son premier amour, c'est le premier être humain dont elle va s'attacher. J'avais envie de quelque chose de léger, en même temps qui puisse parfois aussi décoller, aller vers quelque chose d'un peu plus empathique dans l'émotion. Et donc ouais, là c'est construit autour d'un petit motif comme ça de violoncelle, une petite basse jouée au violoncelle. Un motif à 5 temps, donc aussi quelque chose d'un petit peu bancal. Et voilà, donc c'est le thème de Manolé.
Donc il y a le travail de thème, la musique n'est pas là dans une simple illustration pour se rendre invisible. La musique est un vrai personnage, hein. Elle se fait entendre, elle participe au côté ludique du film. Elle fait partie même avec ce graphisme, hein, ce graphisme qui est très, lui, loin du réalisme. Et la musique s'éloigne également d'un souci de réalisme, hein. Elle n'est pas là uniquement dans illustrer quelque chose de réaliste. Donc graphisme et musique sont vraiment en harmonie pour créer un monde presque de conte, hein, un monde poétique et féerique.
Je m'en rappelle dans les discussions avec Anke, il y avait toujours cette notion en fait de se décoller du réel, de la réalité, d'être même dans les scènes, on va dire, les plus dures, les scènes un peu tristes, où on voit de la souffrance, d'être toujours dans quelque chose d'aérien, de léger, de métaphysique un peu. Enfin voilà, c'est tout le propos du film, quoi. C'est vraiment un conte philosophique, et pour être toujours être dans ce niveau un peu de compréhension un peu philosophique, hein, sans non plus être trop littéral. La musique devait se décoller du réel, de l'émotion, des premières intentions qu'on voyait. Elle devait prendre le contre-pied, être toujours dans quelque chose d'assez aérien, assez léger. Ouais.
Et il y a aussi le fait de surprendre, le fait de changer à chaque fois, de surprendre l'auditeur et le spectateur par des choix insolites d'instruments. Il y a différents timbres qui s'ajoutent à la composition, le violoncelle, la guitare électrique, l'accordéon, le saxophone, le piano préparé. Alors vous êtes vous-même multi-instrumentiste. Comment vous avez fabriqué toute cette expérimentation ?
Au départ, de manière très classique, hein, c'est-à-dire que j'ai composé dans mon studio et j'ai élaboré des maquettes avec mes sons, avec mes instruments. Et puis j'avais une idée assez précise. Il s'agissait vraiment d'enregistrer 90% des instruments qu'on entend dans cette musique. Ce sont des instruments qui ont été interprétés par des musiciens en chair et en os, c'est uniquement des samples ou des banques de sons. Et donc ensuite, il s'agissait de produire ça de manière un peu conviviale. Donc en fait, on s'est retrouvé dans un studio en Alsace, dans le studio de Rodolphe Burger,
chanteur et arrangeur de Bachung, voilà. D'ailleurs.
Exactement, ouais. On s'est retrouvé dans ce studio pour justement un peu en quelque sorte en résidence avec les musiciens pour enregistrer toutes ces musiques que j'avais maquettées au préalable. Et c'était aussi des moments d'expérimentation, aussi d'improvisation, de jeu. On était aussi en présence de la réalisatrice, qui permettait aussi d'aller plus loin dans les intentions que permettent les samples et les maquettes.
Est-ce qu'il y avait des références de la part de la réalisatrice pour vous orienter, ou vous aviez vraiment carte blanche ?
C'était vraiment une carte blanche. La seule référence qu'elle m'a donnée, c'est Laurie Anderson.
Ah, très bien. Artiste très expérimental également aux États-Unis.
C'est à la fois une artiste visuelle, une musicienne, une autrice. C'est quelqu'un de très, très complet et très transversal. En écoutant et réécoutant Laurie Anderson, bon, je ne voyais pas trop le lien, mais en tout cas, ça m'a donné une idée, enfin, une espèce d'horizon un peu artistique de quelque chose vers lequel il fallait tendre. Donc, vers quelque chose d'un peu déroutant, parfois, des sonorités un peu déroutantes, un peu décalées. Et voilà, après, il y avait avec l'accordéon, la guitare électrique, un petit peu à Tom Waits ou à ce genre de choses, mais il n'y avait pas d'influence déterminée clairement au départ. C'était vraiment une carte blanche assez totale.
D'accord. Et moi, en voyant le film, du coup, mais vous y pensiez peut-être pas parce que le film n'était peut-être pas sorti au moment où vous l'avez travaillé, mais évidemment, un film d'animation avec un chien. Et même dans la musique, j'ai pensé à L'île aux chiens de Wes Anderson avec cette partition d'Alexandre Desplat, notamment avec un aspect très percussif.
Dans la partition d'Alexandre Desplat, il y a beaucoup de percussions. Et comme on est au Japon, il y a beaucoup de taiko, enfin de tambours japonais, des musiques qui rappellent presque les musiques japonaises de théâtre de No. Effectivement, moi, je suis percussionniste, donc j'ai toujours, quand j'écris, j'ai toujours cette intuition rythmique. D'ailleurs, mes musiques sont souvent construites autour de motifs rythmiques. Et effectivement, des fois, il y a les percussions ont une assez grande place, mais comme il y avait toujours cette intention de douceur par rapport à la dureté des fois des situations que traverse la chienne dans ce film, il y a aussi beaucoup de sonorités de chaises, de piano, même le piano préparé est assez doux, même la guitare électrique est assez douce en fait.
Et pourquoi la présence de la valse de Strauss en fait que vous avez réintégrée dans votre partition ?
Ah oui, j'ai complètement réarrangé, malmené. C'est un clin d'œil assez clairement assumé à Kubrick. Hein. Voilà, on a une impression de légèreté. C'est un moment d'ailleurs très léger, un moment de bonheur. Clairement exposé comme tel en fait dans le film. Et on a tous les éléments de la cuisine. C'est une espèce de crêpe partie. Avec des crêpes qui valent, le sucre, les pots de confiture qui sont en apesanteur comme ça. C'est un moment de grâce, un moment de bonheur en fait. Et il s'agissait de reprendre un peu ce cliché en fait de la valse de Vienne, du beau Danube bleu sur les images de Kubrick, mais de le reprendre à notre compte en fait dans notre petite scénette. Ouais.
Alors la valse de Strauss, voilà, qui appelle cette légèreté, cette apesanteur. Il y a quelque chose comme ça de très léger. Et vous parliez justement de ce côté léger, de ce côté presque même joyeux et insouciant à travers le personnage du chien. Mais il y a aussi, comme vous le disiez, une dureté qui est aussi présente dans le rock. Et on peut écouter dans ce morceau justement cette inspiration à la fois de la dureté et du rock.
Cinésique Radio, interview BO par Benoît Bazerico.
Ce dernier morceau que l'on vient d'entendre, issu de la partition de l'extraordinaire voyage de Marona, on entend un élément musical qu'on n'a pas encore évoqué, qui est la voix humaine. On entend une voix sans parole dans cet extrait, The Yard Ballet, le nom du titre. Est-ce que l'idée de convoquer une voix était anticipée dès vos écritures de thème ?
C'est moi qui ai intégré une voix en fait dans mes maquettes. Je sentais ça, mais c'est aussi peut-être du coup l'influence de Laurie Anderson aussi qui chante souvent, enfin qui est une chanteuse. Mais en fait, une voix féminine, ça me semblait raccord en fait avec cette idée de narration, de voix off, de la chienne. Donc voilà, c'est une voix qui est complètement musicale, hein, qui dit rien, hein, elle chante des A, des O en fait. Disons que c'est quelque chose qui est venu un peu comme ça de manière improvisée presque, enfin au fil de la composition. Et puis c'est une idée qui s'est imposée en fait, c'est une idée qui a plu à la réalisatrice. Je l'ai pleinement intégrée à la composition, quoi. C'est un peu comme la voix humaine de la chienne, quoi. Une deuxième voix off, mais musicale quoi.
Chez les chiens, Le bonheur, c'est l'inverse de celui des hommes. Nous voulons que les choses demeurent exactement comme elles sont. Les humains, eux, veulent toujours autre chose que ce qu'ils ont.
Interview BO donc avec Pablo Picot qui nous parlait de cette partition pour l'extraordinaire voyage de Marona. On vous recommande le film et la BO, disponible en digital, en physique peut-être aussi, Pablo ?
Et non, pas encore. Une édition très limitée de vinyle, mais qui n'est pas disponible à la vente.
On n'a pas parlé de cette chanson de fin, on a parlé donc de la voix qui est présente dans la partition, une voix interprétée par Isabelle Sörling, et le film se termine avec la chanson. C'était le cas aussi, je crois, avec Oxmo Puccino sur Adama. C'est votre choix également de terminer le film avec une chanson ?
Alors, c'est un choix, disons que quand la voix est apparue dans la musique, on s'est quand même rapidement dit que ce serait bien quand même de enregistrer une chanson pour clore le film. On s'est dit qu'on allait essayer de faire quelque chose. J'ai reçu des paroles, en fait, la veille de la séance d'enregistrement avec Isabelle. Et donc, j'ai composé la musique vraiment la veille, quoi. Enfin, la veille pour le lendemain, un peu. Je suis parti d'un thème du film, mais là, j'ai composé la chanson la veille pour le lendemain, en fait, avec des paroles qui m'avaient été envoyées. Et donc, la chanson, un peu, a surgi de nulle part, un peu en fin de processus. C'était un peu un petit miracle. On avait dans l'idée de faire une chanson, mais on n'avait pas prévu, on ne savait pas si on allait forcément y arriver, si on avait la matière. Et puis cette chanson, elle s'est un peu imposée comme ça d'elle-même pour la fin du film.
Très bien. Et bien, écoutons cette chanson. Merci Pablo. À bientôt. Vous Merci. Retrouvez tous les podcasts de Cinésique Radio sur cinésique.fr et toutes les plateformes de podcasts.
Happiness. It's a small thing, almost nothing. A saucer of milk, a bit wet tongue, a nap, a place to bury a bone. Happiness is a small thing. A small